Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huigban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jésuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Que la solution existe.
Vous devez aussi savoir que les hommes et les femmes ne raisonnent pas et ne fonctionnent pas de la même manière. Je vous donne un autre exemple. Les femmes ont pour principal besoin l'émotion. Elles veulent qu'on leur dise « Je t'aime, ma chérie, ça va bien, n'aie pas peur, je suis avec toi. » La femme a besoin tout le temps d'être nourrie d'émotions, d'être réconfortée dans ses émotions, d'être consolée dans ses émotions. Or, l'homme n'est pas très émotif. L'homme a besoin d'éléments précis, factuels, rationnels. Qu'est-ce que ça implique? Le langage des hommes et le langage des femmes n'est pas pareil. S'il y a tant de disputes que ça dans les couples, c'est parce que quand l'homme parle, ce qu'il croit dire n'est pas ce que la femme comprend. Et quand la femme parle, ce qu'elle croit dire n'est pas ce que l'homme comprend. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes langages. C'est comme si je parle chinois et quelqu'un parle français. C'est normal qu'on se batte parfois. Tu vas dire quoi, il est en train de menacer, il est en train de dire, je t'aime beaucoup. Hein? Donc, on ne se rend pas compte qu'on aboie de la même espèce qui est l'homme. On ne parle pas le même langage. Exemple, ta femme rentre le soir. Elle dit, ah, j'ai une journée très difficile. Aujourd'hui, les employés m'ont fait telle chose. Je leur avais dit, ils n'ont pas fait, ça m'a créé des problèmes. Qu'elle dit ça, qu'est-ce que la femme veut? Parce qu'elle est émotive. Elle parle pour se vider. Elle parle pour être aimée. Et elle parle parce qu'elle veut être pleine. Elle veut que tu dises, ah ma chérie, c'est vrai, oh ils sont méchants, ces employés ils valent rien, et tu vas les faire mater, tu commences à la plaindre, ma chérie, ça va aller, c'est comme ça ils sont. Là quand tu parles comme ça, elle va encore parler, oui tu as vu, non, puis elle va parler. Tu ne dis rien de bon, hein? Tu ne fais que la plaindre. Là elle est contente. Elle dit, voilà, hein, je t'aime beaucoup parce que tu sais m'écouter. Tu n'as rien écouté, hein? Tu l'appelles seulement. Mais qu'est-ce que les hommes font? Si moi je vais voir un homme, si je vais le voir, je dis, mon gars, j'ai un problème. En même temps, quand je pose mon problème, je dis, mes employés ont fait tel. La seule chose qu'il sait que j'attends de lui, c'est qu'est-ce que je fais. Il va commencer à dire, bon, si c'est ça, il faut faire ci, appelle ton patron, fais une autre, fais ci. Quand un homme pose un problème, il ne veut pas être plein. Il ne veut pas qu'on bavarde. Il ne veut pas qu'on dise, ah, j'ai pitié de toi, mon chéri. Non, il ne veut pas ça. Il veut concrètement, je fais quoi, mon gars? Quand deux hommes se rencontrent, ce n'est pas pour dire, ah, le pauvre, ah, c'est pas bon, hein, ils sont méchants. C'est pour dire, n'aimez pas le bon. Et rapidement, on parle concret. La conséquence, c'est quoi? Quand une femme dit à son mari, mes employés m'ont fait ça. Le mari dit, ah bon, c'est pas compliqué, je t'avais déjà dit de prendre tes dispositions. Sortez un autre service. Fais ci. C'est pas ça que je dis. Tu ne m'écoutes jamais. Je dis qu'ils m'ont insulté. Et oui, mais je t'ai dit de prendre tes dispositions. Mais non, c'est pas ça que je dis. Et puis toi, tu n'écoutes jamais quand on te parle. Tu as dit, mais comment il dit que je ne l'écoute pas? Si je l'écoute pas, ça va proposer des solutions. C'est pas des solutions que je veux. Je veux juste que tu m'écoutes. Je veux juste que tu me comprennes. Parce qu'elle appelle au secours en prenant ses problèmes. Elle s'en fout des solutions. Hein. Elle veut juste que tu pleures avec elle. Si tu ne veux pas pleurer, dis au moins je t'ai compris. C'est pas grave ma chérie, ça va aller, je suis de cœur avec toi. Demain sera une meilleure journée. Hein? Moi je suis là pour toi, t'inquiète pas. Là elle est contente. Tu n'as rien dit comme solution. Hein? Mais tu lui as rappelé que tu l'aimes. Oh, quand toi tu es un homme et tu ne connais pas le langage des femmes, quand elle commence à parler, tu commences à la bombarder de solutions. Et tu découvres qu'en fait elle n'écoute pas tes solutions. Elle fait même le contraire de ce que tu as dit. Et elle revient encore se plaindre à toi. Tu dis, mais je t'ai déjà dit quoi faire, non? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, je te dis de m'écouter. Parce qu'en fait, ce qu'elle dit que tu n'as pas entendu, ce n'est pas je veux des solutions, c'est plains-moi. Prouve-moi que tu m'aimes dans cette épreuve. Prouve-moi que tu comprends que j'ai raison. Prouve-moi que tu ne penses pas comme les autres que j'exagère. Dis-moi que j'ai raison de m'être emporté, d'avoir crié au lieu d'avoir trouvé une solution intelligente. Vous voyez ce que je veux dire? À l'inverse, quand l'homme pose un problème à sa femme, elle m'a dit, c'est pas grave, ça va aller, hein, moi, mais là, Dieu. Elle a dit, bon, je vais prendre un verre avec mes amis, là, je reviens. Elle a dit, moi, je veux des solutions. Elle me plaint. Bon, reste à la maison. Je vais aller voir des gars comme moi. Quand au moins je posais mon problème, eux vont me dire quoi faire. Parce que quand l'homme pose son problème, tu commences à le plaindre. Tu lui dis, elle n'a rien compris. Ce n'est pas de chose sérieuse que Dieu va faire. Ce n'est pas Dieu va faire la chose. Je veux une solution. Il va sortir de la maison pour aller voir un de ses amis qui va dire, ok, ce que tu as fait, ça m'est arrivé. Puis il va commencer à lui donner des conseils pratiques. Les hommes aiment les conseils pratiques. Et quand on leur pose un problème, ils viennent donner des conseils pratiques. Parce qu'ils sont habitués à être des gagneurs, à être des gens qui ont des problèmes. Ils estiment tout le temps qu'ils doivent prouver qu'ils sont à la hauteur du problème qu'on leur a posé. Or, les femmes sont des gens qui aiment. Elles raisonnent tout en matière d'amour. Ce n'est pas que vous ne pouvez rien faire pour changer un homme, rien faire pour changer une femme. Mais vous devez juste savoir dans votre couple que la femme pense comme une femme. Quoi qu'elle dise, la seule chose qui est importante, ce qu'elle dit, c'est ses émotions. Faites pas attention à ce qu'elle dit de logique. Par exemple, tu vas toujours rester avec ta femme. Le jour où elle te demande, tu ne peux pas, elle va dire, toi, tu n'es jamais disponible. Le jamais de la femme ne veut pas dire jamais en français. Elle veut juste dire qu'aujourd'hui, tu n'es pas disponible. Ne dis pas, comment tu peux dire jamais, mais hier, on était. Elle sait bien qu'hier, vous avez été. Mais quand maintenant, là, tu n'es pas disponible, ça veut dire que tu n'es jamais disponible. Il faut savoir que ça, c'est français des femmes. Quand elle dit ça, tu ne t'énerves pas. Parce que si tu dois t'énerver pour ça, tu t'énerveras toujours. Toutes les femmes sont pareilles. À différents degrés. C'est féminin. C'est pour ça, par exemple, que dans la Bible, vous allez voir, les femmes sont de meilleurs évangélistes que les hommes. Dès qu'une femme quelque chose, elle va courir, elle va parler, venez voir, Jésus est réveillé. Ce n'est pas pour rien que Jésus est réveillé, les femmes. Si c'est les hommes qui l'ont vu, ils n'ont dit à personne. Ils m'ont dit, il faut attendre d'avoir la preuve, les gens vont se moquer de nous. Mais quand les femmes l'ont vu, elles vont courir, Jésus est réveillé, aucun homme n'allait courir comme ça. Jésus lui-même, c'est ça. Quand il a voulu conquérir la Samarie, qui est un endroit rebelle aux Juifs, il a essayé, les hommes, ça n'a pas marché. Quand il a pris une femme, quand il a touché la femme au puits là, elle a évangélisé toute la Samarie pour lui, non? Dès qu'une femme est convaincue, venez, j'ai découvert quelque chose, c'est bien. Et c'est ça, c'est la force et en même temps la faiblesse des femmes. Donc, si vous êtes une femme, que votre mari vous parle, comprenez que c'est bon de l'aimer, de lui manifester de l'amour, mais sachez plutôt qu'un homme a besoin d'être honoré, d'être glorifié, d'être respecté. Le plus grand cadeau que vous puissiez faire à un homme, c'est de faire en sorte qu'avec vous, il se sente important, qu'il se sente grand. Si vous faites en sorte que votre homme avec vous se sente aimé, que vous le considérez comme un gagneur, comme un chevalier, comme un brillant, vous lui montrez que vous comptez sur lui, vous lui montrez qu'il est votre héros, il va rester avec vous longtemps, il peut se balader n'importe comment, il reviendra. Mais si vous humiliez votre homme, il reste avec vous le temps de trouver quelqu'un qui ne l'humiliera pas, parce qu'aucun homme n'aime être humilié. Si un homme vient chez toi, il est un gigolo, parce que tu as de l'argent qu'il est là, et il accepte que souvent il est très gentil parce que tu as de l'argent, il faut savoir que c'est un attendant, tu es en train de le louer, tu ne l'as pas. Le jour où il va tomber sur une femme, où il va pouvoir se sentir homme et non humilié, il va te lâcher. Parce qu'aucun homme ne peut durablement vivre en situation d'infériorité. Tu as conçu des hommes pour être le chef de la famille. Un homme qui n'est pas en position de chef n'est là en attendant que de trouver l'occasion de devenir chef. Vous allez voir que les hommes qui ont parfois des femmes importantes, qui portent des pantalons, les femmes magistrales, les femmes députées, là, tôt ou tard, ils divorcent. Quand ils divorcent, c'est pour épouser qui? Les vendeuses de tomates, les vendeuses de beignets, les coiffeuses. Pourquoi? Parce que la coiffeuse est humble. Faut vivre. Voilà. Il va lui laver le pied. Il va la traiter comme un roi. Parce que c'est la chance que j'ai de trouver un gars de ce niveau. L'autre est madame magistrat, madame le président. Elle fait la maligne. L'homme préfère vivre avec une roturière qui le traite comme un seigneur qu'avec une grande patronne qui le traite comme un boy. N'humiliez jamais vos maris si vous êtes des femmes. Même si votre mari est petit, faites tout pour qu'il oublie qu'il est petit. Parce qu'aucun homme ne veut vivre en situation d'infériorité. Quant aux femmes, vous devez pouvoir les rassurer. Une femme a besoin qu'on lui dise 1000 fois qu'on l'aime. On ne lui dira jamais assez. On ne lui prouvera jamais assez. Quelles que soient les épreuves, si ta femme sait que tu l'aimes, elle va être forte et va te suivre. Ne laissez rien faire douter à votre épouse de votre amour. Parce que les femmes étant plus fragiles, il est plus facile pour elles de douter de l'amour. Je vais voir, on va parcourir rapidement les questions. Je crois qu'on a évoqué beaucoup de questions. Comment gérer les relations entre votre mère et votre épouse? Sachez que quand on épouse quelqu'un, on épouse sa famille. Vous ne pouvez pas détester les parents de quelqu'un et dire que vous l'aimez. Mais vous n'êtes pas obligé non plus de vivre avec les parents de quelqu'un pour vivre avec lui. La Bible dit que la femme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son mari. Et les deux ne feront qu'une seule chair. Vous allez voir que un couple qui habite dans la maison de l'un des deux parents ne va jamais être heureux. La Bible dit par exemple que tu ne peux pas avoir deux capitaines dans un même bateau. Si tu habites chez ton père avec ta femme, tu te comportes comme un enfant, selon la Bible. Parce que tu es dans la maison de ton père. Et une maison ne peut pas avoir deux pères. Pas plus une maison ne peut avoir deux mères. Vous allez voir dans notre culture, il y a des gens qui appellent leur maman dada. D'accord? Pourquoi? Parce que leur maman les a élevés chez leur grand-maman. Si leur grand-maman est la maman de la maison, leur maman peut être maman et dada. Si à cause des problèmes d'argent, vous n'avez pas l'argent d'avoir un appartement, d'avoir un loyer, vous allez vous marier, vous habitez chez vos parents, ne soyez pas surpris que vos parents vous traitent comme des enfants. Si tu habites chez ta belle-mère, que ce soit l'homme ou la femme, elle est la maîtresse de sa maison. Elle se mêle de ta vie parce que tu es comme n'importe quelle personne dans sa maison. Tu ne peux pas fonder ton foyer dans le foyer de quelqu'un et être surpris que la personne va réglementer ton foyer. Tu es dans sa maison. Un couple a sa maison dans laquelle il est son patron. Si tu ne veux pas que ta belle-mère se mêle de ta cuisine, tu n'habites pas chez elle. Mais oui, pourquoi tu veux habiter chez elle sans subir son autorité? Si tu es assez grand pour te passer son autorité, habitez chez vous, dans votre maison. Il est plus difficile, ça c'est un autre aspect de la question, de venir réglementer votre vie que si vous habitez chez eux. Il y a des gens, ils sont en couple, ils habitent chez le père, la mère, les frères, les beaux-frères sont là, la belle-sœur sont là. Il est impossible d'être heureux dans un contexte comme ça. Impossible. Parce que de bonne foi, je dis, chaque famille a sa culture. Ta mère considère que certaines manières de faire les choses sont normales. Ta femme a aussi une autre éducation. Ta mère va vouloir tout le temps aligner ton épouse sur elle. Et si ta femme n'a pas toujours raison. Mais ton épouse a le droit de fonder sa maison, de l'organiser comme elle le veut, comme ta mère à son époque avait fondé sa maison, l'avait organisée comme elle le veut. Donc tu crées des conflits inutiles entre ton épouse et ta mère en les faisant habiter ensemble. Il y a des gens qui ne s'entendent que quand ils sont loin l'un de l'autre. Évitez au maximum d'habiter chez les parents de l'un de l'autre. Ensuite, fixez des règles. Ça dépend des familles, effectivement, des familles qui exagèrent. Au campus de mariage, on en parle en détail. Mais chaque conjoint a la responsabilité de gérer sa famille. L'erreur que certains font, c'est que le mari livre la femme dans les gueules de ses parents. Par exemple, les parents les invitent à une cérémonie. Il sait très bien qu'il n'a pas envie d'aller. Il dit à sa mère que lui, il va venir. Et au dernier moment, ils ne viennent plus. La mère considère que c'est son épouse qui a pris, qui a refusé. Ou bien il dit à sa mère, bon, je vais avoir un voix avec mon épouse. Alors que c'est lui qui ne veut pas. Après, il dit à son épouse, non, on n'y va pas. Il oublie que ça veut dire pour sa mère que son épouse est en train de loin de son fils. Il est en train de créer une inimitié entre les deux. Mais il ne s'en rend pas compte. Chacun doit apprendre à affronter en griffe avec politesse et amour ses parents pour le compte de son couple. Un problème se pose, tu le règles avec tes parents. Et si tu le règles bien, tu évites que tes parents n'aient à en discuter avec ton conjoint. Il n'est pas en position d'autorité chez toi. Chacun doit protéger l'autre de sa famille. Et si vous ne voulez pas que les parents se mêlent de votre vie, vous devez organiser comment vous allez vers eux. Si vous avez une périodicité, tel jour de fête, telle fois par mois, où vous allez les visiter, plus vous organisez à votre initiative le rythme auquel vous leur rendez visite et vous pouvez à leurs besoins, plus vous ne leur permettez pas de se mêler, de venir vous chercher chez vous. Mais si vous ne prenez pas l'initiative d'organiser les relations entre vous et la belle famille vient chez vous pour essayer de créer la relation. Et cela se passe souvent dans des conditions que vous ne voulez pas. Dans tous les cas, aucune femme et aucun homme ne peut être heureux quand toute sa belle famille ne l'aime pas. Si par exemple tu épouses quelqu'un, ses parents te détestent, ses frères et soeurs te détestent, tu n'es même pas censé l'épouser. Pourquoi? Dans Jésus, c'est différent. Mais en règle générale, il y aura toujours des moments de la vie où il va y avoir des tensions entre vous. À ces moments-là, Il est important pour ton conjoint de savoir que tu as un recours, que tu peux aller voir sa famille et que sa famille peut l'asseoir et lui dire les quatre vérités. Les femmes voient souvent leur belle famille comme un problème. C'est vrai que les belles familles sont souvent des problèmes, mais dans beaucoup de cas, les belles familles sont les solutions. Parce que moi, j'ai découvert qu'un homme qui ne craint pas sa famille ne craindra certainement pas sa femme. L'homme qui peut dire « va te faire foutre à ses parents », va dire tôt ou tard « va te faire foutre à sa femme ». Chacun de nous, à cause de Satan, peut arriver, et on ne le souhaite pas, dans des moments de sa vie où il est irresponsable, où il se trompe, où il est dans l'erreur. Si à ce moment-là, il n'a pas d'autorité qu'il craint, il n'a pas quelqu'un qui peut se dire « si cette personne-là pense que je vais avoir des problèmes pour se ressaisir, si c'est Dieu, c'est tant mieux, si c'est un parent, c'est tant mieux », son conjoint est en danger. Donc, si tu épouses quelqu'un et il a fait le vide autour de lui, tu ne connais personne, que tu peux aller voir la personne, va l'asseoir, va lui parler, tu n'as pas intérêt à l'épouser. Parce qu'il va avoir des problèmes, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, tu vas avoir des problèmes. S'il a une tête que personne n'a pu coiffer dans sa famille, ce n'est pas toi qui vas le coiffer. Quand c'est bobo, vous allez rire. Quand ça va chauffer, tu vas pleurer. Et tout le monde dira, maintenant non, oui. Il y a des gens qui veulent faire la dot, ils vont louer des gens pour venir faire les simulacres. Va louer des gens pour venir te donner la dot. Quand les problèmes vont arriver, tu vas les louer aussi pour venir de la famille t'écouter. C'est des réalités. On vit ensemble pour 20 ans, pour 30 ans, pour 40 ans, pour 50 et parfois plus. Tu ne peux pas éviter la famille dans laquelle quelqu'un est né pendant 50 ans. Et si tout le monde dans la famille te maudit, tu ne peux pas t'en sortir. Que tout le monde ne t'aime pas dans la famille, ce n'est pas grave. Mais que tout le monde ne t'aime pas, ça devient grave. Et si ton conjoint t'aime, il n'est pas censé accepter que vous officialisez vos relations avant d'avoir fait en sorte qu'au moins une partie de la famille te soutienne. Écoutez, il y a par exemple des hommes, ça leur arrive. Mais ça peut être ta belle-mère qui passe tout son temps à proposer des filles à ton mari. Organisant, parce que ce que vous oubliez, c'est qu'une mère connaît son enfant mieux que quiconque. Hein. C'est vrai que sa femme va apprendre à la connaître, va finir par la connaître. Mais elle, elle a vu bébé. Regardez comment elle tient son bébé là. Elle sait de lui des choses que lui-même ne sait pas encore. Quand il va avoir 30 ans, il va faire le malin. Mais il oublie que sa maman le connaît en certaines choses plus que lui-même. Parce qu'elle l'a vu naître, elle l'a vu grandir. Donc, quand ta belle-mère veut manipuler ton mari, elle tient des leviers que toi, tu ne tiendras jamais parce qu'elle le connaît mieux que toi. Et si ta belle-mère est décidée à te pourrir la vie, tu peux t'en sortir, hein, mais tu vas y dépenser beaucoup d'énergie. Et ce n'est pas toujours que tu t'en sortiras. Comme on dit, parfois il faut faire l'âne pour avoir le foin. Si tu peux arrondir les angles, si tu peux leur faire des concessions. Parce que les belles-mères sont jalouses. Elles considèrent que la femme de leur fils vient leur voler leur fils. Surtout quand c'est des mamans qui ne sont pas mariées, leur fils était quasiment leur mari, c'est leur chouchou. Donc quand quelqu'un vient l'épouser, et toute personne qui se marie va passer plus de temps avec sa femme qu'avec sa mère. Il faut comprendre que la mère, légitimement, sans être méchante, est paniquée. Le bébé qu'elle a vu grandir, qui depuis 30 ans est son chéri, c'est avec lui qu'elle parle, ne connaît qu'elle. Quand il va voir une femme, il ne peut pas aimer sa femme, passer du temps avec elle, passer autant de temps avec sa maman. Donc, il n'y a rien à faire. Quand un homme se marie, il va être moins proche de sa maman, même s'il reste toujours proche qu'il était avant. Mettez-vous à la place des mamans. Ça leur crée la panique. Si elle sent que la femme en question l'aime bien, et est du genre plutôt à pousser son enfant vers elle, et à faciliter leur contact, elle va aimer cette femme. Mais si elle sent que cette femme est du genre plutôt à éloigner son enfant d'elle, elle va combattre cette femme. Je donne un exemple. Quand la maman de l'homme l'invite pour une fête, si vous voulez par exemple avoir la paix, tu peux par exemple permettre que tu dis à l'homme de dire non, qu'il n'a pas le temps. Et maintenant, quand il dit non, qu'il n'a pas le temps, il t'envoie toi maintenant voir la belle-mère. Lui, il ne répond pas, il dit des bêtises. Laisse-moi, je vais le convaincre pour toi. Après tout, c'est ton fils, non? Ne t'inquiète pas, je sais où je le tiens. Et toi, tu vas faire semblant de lui parler. Et bien, bon, finalement, je suis d'accord. Il dit, maman, tu vois, non? Il tape là. La fille, tu as déjà compris ça. Elle dit, ah, ça, c'est une bonne femme. Il ne peut plus. Il amène une fille. Elle va le chasser. Non, 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 non. Elle est là. Ou bien, tout est une question de sagesse dans la vie. Si ta belle-mère perçoit que tu es un bon parti pour elle, c'est elle qui va te verrouiller là. Te donnant même des secrets. Ah, ton fils, ton mari, là, il aime fille, il aime manger ici, si, il fait ça, il va être content. Ne lui fais jamais ça, hein, il devient fou. Elle va devenir ton meilleur allié. Et souvent, elles ne sont pas à grand chose près. Ne les considère pas comme des ennemis a priori. Donnez-leur le respect qui leur est dû. Faites des choses comme ça pour montrer que ah, vous les aimez, que vous voulez leur bien. Quand vous faites ça, même si vous ne les voyez pas tout le temps, ils ne veulent pas grand chose. De temps en temps, vous faites, vous allez les voir, vous les honorez. Les parents ne demandent pas grand chose. Mais donnez-leur cette considération-là. Attention, Une personne qui est mariée a le droit à avoir les biens de son conjoint. C'est pour ça même que juridiquement, tous mes biens appartiennent à mon épouse. Et tous ces biens, le vrai mariage, c'est le mariage en communauté de biens. Donc, si vous aimez quelqu'un et vous vous mariez, il est normal que vos biens appartiennent à la personne et que la personne veut que vous pouvez faire besoin. La Bible même le dit. Le problème, c'est, est-ce que la personne vous aime pour qui vous êtes, même quand vous n'avez pas d'argent? Et quand vous avez l'argent, naturellement, elle en profite. Ou est-ce qu'elle ne vous aime que parce que vous avez l'argent? Et quand vous n'avez pas d'argent, elle n'est plus intéressée. C'est la vraie question. Si tu as une amie qui te demande tout le temps de l'argent, il n'y a aucun mal à ça. Puisque tu es censé pouvoir faire besoin. Ce qu'il faut chercher à voir, c'est est-ce que quand tu ne lui donnes pas l'argent, comment elle réagit? Quand pendant une période longue, tu sembles pauvre, est-ce qu'elle vient te voir aussi souvent qu'elle venait te voir quand tu avais l'argent? Si quand tu n'as pas l'argent pour l'amener au restaurant, elle ne vient pas te voir? Si le jour tu dis, bon, par exemple, si avant tu as l'argent, tu envoies tes avocats au pressing, elle vient tout le temps. Tu dis, bon, aujourd'hui, je n'ai pas d'argent, viens, on va faire les lessives ensemble. Elle disparaît, ce n'est pas grave. Tu fais ça 2-3 fois, tu vois, quand il n'y a pas d'argent, elle est occupée, il faut te réveiller. Et quand elle va chauffer dans ta vie, où elle va partir, où elle va te laisser là et aller chercher quelqu'un qui a l'argent en plus. Donc, c'est l'ordre des choses qu'il faut connaître. Quand une relation va mal, faut-il faire l'effort de rester ou partir? Ça dépend de pourquoi ça va mal. Tant que vous n'êtes pas marié, ça veut dire que, surtout si vous respectez le principe de ne pas aller aux relations sexuelles prématurément, vous êtes dans la zone où, justement, vous êtes en train de chercher à voir si vous êtes fait pour aller ensemble ou pas. À ce moment-là, on n'est pas censé devoir faire des efforts surhumains pour rester ensemble. Parce que quand la compatibilité est difficile, c'est peut-être la meilleure preuve que vous n'êtes pas dans le bon choix. Laissez-le passer à autre chose. Bien entendu, je ne dis pas de faire l'amour avec chaque personne, de passer à autre chose. Mais si vous restez dans une relation de fiançailles saine, où le sexe n'intervient pas, vos relations sont censées être bonnes. Il peut y avoir des différends naturellement qu'on règle. Mais quand il y a de grandes crises et vous sentez que c'est des crises structurelles, ne forcez pas. Déduisez-en que ce n'est pas la bonne personne. Si vous sentez que c'est une crise de compatibilité. Donc on devrait faire des efforts surhumains pour rester ensemble que quand on est marié. Si vous n'êtes pas marié, pourquoi voulez-vous vous fatiguer quand quelqu'un n'est pas sérieux, il se moque de vous, il est irresponsable, il est infidèle? Dieu est en train de vous ouvrir les yeux qui n'est pas bon. Foutez le camp. Si la personne n'est pas mariée à toi, elle est déjà infidèle, déjà irresponsable. C'est quand tu n'auras plus le choix, tu vas lui faire des enfants qui vont devenir fidèles? Non. Un homme est censé être meilleur et une femme est censée être meilleure en fiançailles que dans le mariage, puisque là, elle veut avoir le mariage. Donc, si elle cherche quelque chose, elle est déjà mauvaise, tu vas avoir chaud qu'elle aura ce qu'elle cherche. Que faut-il faire quand vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas? Fuir! Il ne vous aime pas. Donc, l'amour va dans les deux sens. S'il ne vous aime pas et vous insistez, qu'est-ce qui va se passer? Soit, selon le cas, il va finir par sortir avec vous par pitié. Donc, tôt ou tard, il va partir. Soit il va finir à force de regarder par trouver une raison intéressée de le faire. Bon, elle est vilaine, je ne l'aime pas, mais elle a beaucoup d'argent. On te louait. Donc, à force, vous avez fini par le convaincre de faire tout sauf agapao avec vous. Mais ça va se terminer. Donc, si quelqu'un ne vous aime pas, ne forcez pas pour l'aimer. Si on est dans la logique que je dis, c'est Dieu qui met sur votre chemin celui qui va vous aimer que vous aimez. On n'est pas censé se trouver dans... Vous voyez, toutes ces situations que vous posez là, vous les posez à cause du sexe. S'il n'y a pas de sexe entre quelqu'un et toi, tu te rends compte qu'il ne t'aime pas. Passe ton chemin. Mais quand par exemple tu lui as déjà donné ton corps, ça te fait mal de découvrir qu'il ne t'aime pas. Voilà, il t'a déjà utilisé. Je vais le laisser partir comme ça. Oui, c'est dommage. Et c'est ça, le sexe vient biaiser le raisonnement. Le sexe vient compliquer les choses. C'est pour ça que Dieu dit, mais quand vous n'avez pas fini de faire votre choix, n'allez pas au sexe. Parce que le sexe complique toute l'équation. À un moment, les gens disent, je l'aime. Je l'aime pas, je l'aime pas, on ne s'entend pas, mais j'aime bien faire l'amour avec elle. Je la trouve bonne au lit. Il y a beaucoup de gens, quand on dit je l'aime, là c'est ça. Parce que ce n'est pas de l'amour. C'est du héros.
Comment réagir avec un homme qui parle tout le temps de comment les autres filles le séduisent? Non seulement il ne vous aime pas, mais il se moque de vous. Il n'a aucun respect pour vous. Il vous prend pour une prostituée et vous considère comme une série de filles. Il a impressionné d'autres filles, il se considère comme fort, il veut vous dire, bon, toutes ces filles-là sont tombées dans mon panier. Hein. Donc, si tu veux être à la page, il faut tomber dans mon panier. Il y a des hommes qui sont tellement culottés qu'ils considèrent que les femmes sont des objets qui sont fiers de sortir avec celui qui est un tombeur. Et donc, il est tellement bête et idiot qu'il pense qu'en se présentant comme un tombeur, vous allez l'aimer. Parce qu'il croit que vous êtes tellement une prostituée que vous aimez les tombeurs. Donc, non seulement il ne vous aime pas, mais il vous méprise, il se moque de vous. Et pour lui, vous n'êtes qu'une traînée. Vous feriez mieux de foutre le camp à la vitesse de la lumière, sinon vous allez souffrir.
Et ce type-là vous dit clairement, je ne t'aime pas. Aime-moi. Regarde les raisons pour lesquelles tu dois m'aimer. Je suis un don juan. Toutes les autres filles sont venues. Qui toi tu as pour ne pas venir? Donc il te dit, je ne t'aime pas, mais toi tu as besoin de sortir avec moi pour me mettre à ton palmarès. Pour dire que le grand tombé là, moi-même je l'ai eu. Donc si tu rentres en relation avec lui, qu'on dit qu'il te doit, c'est toi qui as besoin de quelque chose. Donc, il va te traiter comme une serpillère. Quand quelqu'un ne vous aime pas, que vous vous accrochez à lui, il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Je vois beaucoup de ménages où les femmes sont maltraitées. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle attend pour partir? Mais quand je fouille bien, j'ai découvert qu'à un moment, l'homme dit, j'en ai fini. Je ne veux plus de toi, sors. La femme dit, je ne bougerai pas, qu'il pleuve ou qu'il neige. L'homme dit, ok, reste là. Il commence à faire sa vie, il va. On dit, pourquoi il amène des femmes à la maison? Parce qu'il a déjà dit à sa femme à la maison qu'il ne veut pas d'elle et qu'elle n'a pas bougé. Donc si elle a décidé de ne pas bouger, c'est qu'elle dit, qu'il pleuve ou qu'il neige, je ne bouge pas. Et lui, il va de plus en plus loin, il dit, bon, c'est un permis. Elle a dit qu'elle ne bouge pas. Non, même si j'ai amené déjà à la maison. Moi, je lui ai déjà dit que je ne veux plus d'elle. Quelqu'un qui lui a dit, mais pourquoi elle amène les femmes à la maison alors que sa femme est là? Il faut se demander à sa femme, pourquoi ne pas qu'elle amène les gens à la maison? Ton mari a mis quelqu'un de ta maison. Est-ce que non seulement il te trompe, il se fout de toi? Et tu restes. Bon, si vous avez la conviction du Saint-Esprit, que c'est votre mari, que c'est une phase où le diable est en train de le manipuler, et que ça va passer, et que Dieu veut que vous restiez, Dieu peut demander à une femme de rester dans une condition comme ça. Elle est mariée, c'est son mari, mais c'est une épouse de Satan. Ça peut arriver. Et Dieu lui demande, sois fidèle, ne bouge pas, ça va s'améliorer. Mais si tu sors avec quelqu'un et il te traite comme ça, tu restes. Aïe. Comment savoir que celui ou celle que tu aimes t'aime sincèrement? Rappelez-vous de la définition d'agapao dans 1 Corinthiens 13. Il doit te rendre service, il doit t'aimer, il doit être patient, il doit vouloir passer du temps avec toi, il doit être gentil avec toi, il doit faire souci pour toi. Il doit être là même quand tu n'as rien à lui donner. Il doit penser à toi et t'appeler. Il ne peut pas ne penser à toi quand vous avez rendez-vous. Regardez toujours Corinthiens 13. Quelle est la différence entre une relation amoureuse et l'amour? L'amour la définit, la relation amoureuse, c'est la relation dans laquelle l'amour est censé être vécu. À la différence que là on dit amour, ça peut être eros, ça peut être agapao, ça peut être philo. En relation amoureuse, la différence entre l'amour, c'est relation amoureuse de quel amour qu'il faut se demander. Certains parlent de coup de foudre. Le coup de foudre est quelque chose de dangereux. C'est vrai que de manière instantanée, on peut avoir un désir. En fait, le coup de foudre, c'est un coup brutal de désir. C'est une pulsion. Comment se comporte la foudre? Ça fait un grand bruit, ça éclaire et ça disparaît immédiatement. Ou bien, si tu n'as pas fait attention, mon sang faisait beau là, après tu ne vois plus rien. Ou bien, ça fait un grand bruit, beaucoup de lumière, beaucoup de tapage, mais ça disparaît à l'instant. Alors pourquoi voulez-vous que le coup de foudre dure une vie? Le français qui a fait le mot là, il n'est pas bête, hein? Coup de foudre. Ça s'allume. Ils sont amoureux, ils s'aiment. Le lendemain, c'est fini. Un coup de foudre peut être un déclencheur et qu'après, les gens rentrent à Agapao. Mais on ne peut pas vivre sur un coup de foudre comme ça. Non. Le coup de foudre est pulsionnel. Or, plus l'amour est basé sur le... Ça me prend, je ne sais pas pourquoi. L'amour est aveugle. L'amour n'est pas aveugle. Pourquoi l'amour devrait être aveugle? Tu es aveugle, tu vas tomber. Il faut aimer les yeux bien ouverts. Et parlant justement de comment être amoureux sans être fou d'amour, le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils font comme si l'amour rendait légitime d'être bête. On dit, écoutez, l'une des meilleures manières de savoir que vous vous trompez sur quelqu'un, le jour où vous rencontrez quelqu'un et vous l'aimez, posez-vous une question. Quels sont ses défauts? Si vous ne voyez sincèrement aucun défaut, je vous dis, non, il n'a aucun défaut, il est parfait, je l'aime. Je dis, c'est derrière la preuve que tu dors. Le jour où tu rencontres une personne parfaite, c'est que toi, tu es devenu déjà imparfait, tu ne vois plus rien. Puisque toute personne est imparfaite. Toute personne a des défauts et des qualités. Si tu rencontres quelqu'un que tu penses qu'il est parfait et tu aimes tout en lui, c'est soit que c'est un hypocrite qui fait la comédie pour être exactement comme tu aimes. Et tôt ou tard, il redeviendra qui il est. Là, tu découvriras ses vrais défauts. Ou alors, il est naturel, c'est toi qui es tellement naïf et tellement emballé que tu ne vois plus ses défauts. Dans tous les cas, dans le vrai amour, tu dois voir quelqu'un dire, je l'aime pour telle, telle, telle chose. Il y a telle, telle chose que je n'aime pas en lui. Mais comparé à ses qualités, je veux faire l'effort d'aller avec. Là, quand tu es en train de raisonner comme ça, tu es sur le chemin du vrai amour. Mais l'amour, je ne sais pas, je l'aime, il n'a que des qualités. Il est parfait, il n'y a rien de mauvais en lui. Bon, son seul défaut, c'est qu'il sourit beaucoup. Tu vas souffrir. Quand tu es fou d'amour, c'est que tu es fou. L'amour t'a rendu fou. Donc tu n'es plus lucide.
Tu vois les choses non pas comme elles sont, mais comme ton obsession te les montre. Et tout ce qui est comme ça est forcément faux. Ou la personne te manipule, ou tu es naïf. Donc, dans tous les cas, tu vas te réveiller. Si tu ne veux pas te réveiller en pleurant, avant de te coucher, il faut être sûr que tu vois. La seule manière d'être sûr qu'on est en train d'aimer au sens agapao, c'est de pouvoir dire, mon conjoint là, il y a des choses que je n'aime pas en lui. Et lui-même, il sait que je n'aime pas ça. Mais il a tellement d'autres qualités. Après tout, ça, on peut gérer par la grâce de Dieu. Là, tu es sur le chemin du vrai amour. Tu ne vas pas te réveiller demain en disant, oui, mais avant, il était gentil. Il m'appelait tous les matins à 6 heures pour me dire une poésie. Maintenant, depuis que je vais coucher avec lui, il ne m'appelle plus pour des poésies. Aucun homme ne peut faire poésie tous les matins. Comment entretenir le désir quand on est tout le temps avec quelqu'un? Alors, le vrai désir ne vient pas toujours du manque. C'est vrai qu'avec Satan, il crée le manque des choses dont on le désire. Mais quand quelque chose est bien, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas avec nous que nous avons besoin de nous rapprocher de Dieu. Et le vrai amour, c'est le désir d'être tout le temps avec les choses, d'en jouir. Et quand c'est le vrai amour, vous n'êtes pas rassasié. Ça ne vous sature pas. Et on n'a pas besoin de vous faire peur, de vous créer le manque pour que vous en ayez besoin. Parce que la peur vient de Satan. L'amour bannit la crainte. Donc le désir n'est pas fondé sur le manque. Le désir qui est fondé sur le manque, c'est peut-être le désir sexuel. Alors, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la vie de deux copains qui forniquent, une vie où essentiellement ils se rencontrent, ils bavardent un peu, boivent un coca, ils font l'amour entre eux. On finit par penser que la vie de couple, c'est la vie de sexe. Mais dans une vraie vie de couple, comme je dis, vous ne faites pas 1% du temps l'amour. Et plus vous allez vieillir, plus l'amour prendra une place de plus en plus petite pour laisser la place à votre capacité à être heureux ensemble. Partager des choses ensemble, vous soutenir, savoir qu'il y a quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un avec qui vous pouvez parler, quelqu'un avec qui vous pouvez réfléchir, quelqu'un qui prie pour vous, quelqu'un qui partage votre intimité, vos soucis. Le vrai bonheur, l'amour n'est pas dans le lit. C'est dans la vie saine à deux. De savoir qu'on n'est pas seul, qu'on est avec quelqu'un qui nous aime, pour qui on compte. Quelqu'un quand on rentre à la maison avec qui on peut parler. C'est pour ça que les gens disent, enfant, il vaut mieux avoir quelqu'un avec qui on est en dispute qu'avoir un lit vide. Pas forcément pour faire l'amour, mais parce que l'homme a besoin de se savoir avec quelqu'un. Nous sommes faits deux par deux. Dieu a fait l'homme seul, a vu que ce n'était pas bon. Il a fait une femme pour le compléter. Donc, on peut passer beaucoup de temps avec son conjoint ou avec sa conjointe sans se saturer. D'abord, on ne peut pas être tout le temps assis côte à côte. Mais vous pouvez passer beaucoup de temps ensemble sans vous saturer. Mais à condition que votre temps ensemble ne soit pas que du temps sexuel. Je vois parfois les blancs, ils se voient ensemble, ils sont tout le temps main dessous, ils s'embrassent dans les parkings, ils sont en train de faire, ils sont tout le temps en train de faire du sexuel partout. Regardez les biens, ils sortent pas ensemble de moi. Personne ne peut vivre comme ça en faisant du héros à temps plein longtemps. Ça va vous ennuyer. Vous allez même avoir des torticolis. Mais on peut avoir une relation amour agapao. Héros vient de temps en temps. Et dans ce cas, cela ne pose aucun problème. Et je conseille même aux hommes de travailler aussi souvent que possible avec leurs femmes. Dieu a fait les femmes comme une aide pour l'homme. Et je connais beaucoup de gens dont le succès est fondé sur le fait que leurs femmes travaillent avec eux. Et c'est mon cas à moi aussi. C'est le cas de mon père. Et c'est le cas de beaucoup de grands hommes. C'est vrai que souvent les femmes sont dans l'ombre. Donc quand on ne fait pas attention, on ne les voit pas. Mais un homme gagne toujours à travailler avec sa femme. Mais les hommes ne l'aiment pas. Pourquoi? Aucun homme ne peut travailler avec sa femme et ne pas avoir des soucis tant qu'il ne s'est pas entièrement sanctifié. Si tu dois avoir plein de copines, plein de maîtresses, et que ta femme est à ton bureau, tu te dis qu'elle va te déranger. Si tu sors avec tes co-employés, et des femmes viennent toujours te voir à ton bureau, tu ne peux pas travailler avec ta femme. Donc, les hommes n'aiment pas que leur femme se mêle de leur travail quand ils ne sont pas encore prêts à n'appartenir qu'à leur femme. Mais à partir du moment où tu règles cette question-là, il n'y a aucune raison pour laquelle une femme et son homme ne veulent pas faire ensemble une paire extraordinaire. Parce qu'ils ont été créés pour se compléter et pour donner le maximum de chacun d'entre eux quand ils sont ensemble. Et bien entendu, quand vous travaillez ensemble, il faut après que l'homme comme la femme fassent preuve de suffisamment de sagesse pour dissocier leur vie professionnelle à deux de leur vie personnelle. Même si on sait qu'ils sont mariés, ils ne sont pas censés indisposer dans leur vie professionnelle les gens par leur intimité. Ils doivent pouvoir dissocier les moments de leur intimité des moments de leur vie professionnelle, sans faire preuve de manque de sagesse à cet effet. Peut-on aimer de l'amour héros plusieurs personnes à la fois? Oui. L'amour héros, c'est l'amour sexuel. Par définition, c'est même l'amour qui aime toujours plusieurs personnes à la fois. L'amour héros, c'est l'amour infidèle. C'est l'amour qui dit tout trou est trou. C'est comme ça qu'ils disent, non? Mais agapao, non.
Donc, agapao même peut aimer pour tout le monde à la fois. Agapao doit même aimer tout le monde. Eros, quand il vient seul, est infidèle. Le plan de Dieu, c'est agapao comme fondement pour tout le monde. Quelqu'un est sélectionné dans le agapao et avec lui, Dieu vous fait une combinaison d'agapao et de Eros. Cette combinaison d'agapao et d'Eros, on devrait idéalement l'avoir avec une seule personne dans sa vie, son conjoint. Donc, nous devons avoir agapao pour tout le monde. Jusqu'à ce que Dieu nous crée une affinité particulière avec quelqu'un dedans. Et quand c'est le vent au mariage, il nous agrafe ou il nous greffe à l'agapao, le Eros. Avec cette seule personne. Mais si tu prends Eros seul, il va t'amener à la fornication avec n'importe qui. Agapao, on le donne tous les jours à tout le monde. Mais la combinaison d'agapao et d'Eros devrait être réservée idéalement seulement pour notre conjoint. Et quoi que nous ayons fait par le passé, il est toujours, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Il est toujours temps de dire maintenant, à partir d'aujourd'hui, je mets un point final. Je ne joue plus avec ma vie. Désormais, je me sanctifie, je me mets à part. Désormais, je me réserve pour mon mari, je me réserve pour ma femme, parce que je sais que c'est à ce prix-là que ma vie de couple va être une vie heureuse. Tout ce que je dis là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais Dieu merci, ce que vous voulez, vous voyez tous les jours ce que ça donne. On est amoureux, on ne doit jamais. Ah, ma copine, elle me trompe. Quelqu'un l'a appelé, elle a fait ci. Et puis on est amoureux, on a la tête ailleurs, on a tout le temps des soucis. Qu'est-ce que tu as? C'est la fille là. Et puis l'amour est devenu un fardeau. Si l'amour doit être un fardeau, ce n'est pas la peine. Dieu l'a créé pour être une joie. La joie ne doit pas devenir un fardeau. Si tu dois aimer quelqu'un pour souffrir, il faut le laisser. L'amour est fait pour être heureux, pas pour souffrir. Mais tant que tu veux faire l'amour avec la complicité de Satan, Satan va te faire souffrir. Or, Dieu ne te donne pas rendez-vous d'amour avant ton mariage. Préparez-vous. Apprenez la cuisine. Apprenez à tenir une maison. Apprenez à respecter votre mari. Apprenez à chérir votre mari. Soyez quelqu'un de bien. Ayez un bon cœur. Soyez une femme généreuse au sens de Dieu, pas généreuse sexuellement. Hein. Soyez une bonne femme. Quand l'homme de votre vie va vous rencontrer, il va être fier de vous épouser. Quand le moment sonnera, tout ira sur des roulettes. Vous aurez l'agapao, vous aurez le héros, vous serez une femme épanouie. Parce que j'ai découvert que l'amour existe toujours. Mais si vous vous pressez pour faire des tirages au sort dans Héros, vous n'avez pas fini de souffrir. Comment faire revenir Héros quand il est parti dans un couple? Il part dans un couple pour plusieurs raisons. La routine. L'une des choses qui tue les couples, surtout en Afrique, c'est la routine. Comme le dit souvent mon épouse, au début on se dit, ma chérie, pupus, tel. Le jour où un enfant vient, on dit, maman, kiki, papa, kiki, yolo. Et on commence à appeler maman, si, papa, ça. C'est-à-dire, on enlève toute individualité. Surtout quand les gens n'ont pas beaucoup de moyens, ils sont dans des petits appartements. Une chambre à coucher, salon. Les enfants dorment dans leur chambre. Les domestiques dorment au salon. Les tantes, quand les oncles, ils arrivent, c'est pas dans leur chambre, c'est devant leur porte à coucher. On ne peut pas avoir d'intimité dans ces conditions. Donc, un, il faut prier pour que Dieu vous donne un minimum de confort pour avoir au moins votre chambre à coucher pour une vraie chambre intime. Sinon, il faut gérer votre vie pour de temps en temps vos enfants sortent pour que vous puissiez passer des moments d'intimité. Et quand vous avez les moyens, sortez parfois et souvent de la maison. Allez au restaurant, allez au cinéma, allez vous balader, allez faire des choses. Il ne faut, pas qu'une fois que vous êtes marié, votre femme devienne un meuble dans votre maison tandis que vous vous baladez. Les hommes aussi doivent sortir avec leur femme et vivre avec leur femme. Je connais des hommes depuis 10 ans, je ne connais pas leur femme. Ce n'est pas normal qu'on connaisse un homme et qu'on ne connaisse pas sa femme. Pourquoi la femme ne bouge pas? Est-ce qu'elle est un meuble? Parce qu'à force de rester à la maison de ne jamais sortir, elle finit par avoir une mentalité de quelqu'un qui ne bouge pas. Toi, tu as une mentalité de quelqu'un qui sort. Vous ne voyez plus la même réalité. Or, ce que vous voyez détermine votre comportement. Non, le comportement, c'est celui qui sort tous les jours. Peut-être que le comportement, c'est celui qui ne sort jamais de la maison. Donc, des écarts se creusent entre vous quand elle ne bouge jamais, que toi, tu es tout le temps parti. Et quand vous ne vivez pas la même chose, vous ne pouvez pas être au même niveau mental. Mais quand vous vivez quelque chose ensemble, ce n'est jamais la même chose si tu vas aller la vivre et le lui raconter. Frère, je dis souvent aux gens, quand ils viennent se former ici, je dis, si quelqu'un vient ici sans sa copine, c'est sans problème parce que ce que vous entendez ici va révolutionner votre vie. Mais une fois votre vie révolutionnée, si la vie de l'autre n'est pas révolutionnée, l'autre vous paraîtra insupportable. Si quelqu'un rentre ici à un certain niveau, il a peut-être avec une copine qu'il trouvait bien, elle le trouvait bien. S'il vient ici pendant 2 mois, il va tellement changer que sa copine, son copain ne le reconnaîtra plus. Et ça arrive à beaucoup de gens ici. Mais si tu viens avec ta copine, vous grandissez au même rythme, vous marchez sur le même chemin. Si vous étiez fait pour être ensemble, il y a plus de chances que la synchronisation reste. Mais autrement, toi, tu es complètement en train de prendre une direction. Elle reste dans le monde. Tôt ou tard, ça va clasher. Donc, sortez avec vos conjoints. Faites-vous des surprises. C'est important que le couple
vivre son amour au-delà de la routine quotidienne. Mais si la femme n'est là que pour préparer, pour aller à la maison, pour faire le repas, puis tous les jours, on fait cette routine pendant 5 ans, pendant 10 ans, l'amour meurt. Le fardeau de la vie détruit l'amour. Il faut entretenir l'amour. Il faut créer des occasions de réveiller l'amour. Oubliez les enfants, oubliez les parents, retrouvez-vous quelque part. Parfois même, on a besoin juste de passer du temps l'un avec l'autre pour redécouvrir, mais tiens, j'ai oublié telle merveille de mon épouse. Ah, j'ai oublié telle merveille de mon mari. Parce qu'à force des parents, des voisins, des domestiques, des enfants, le couple finit par perdre l'intimité. Il finit par ne même plus savoir ou ne même plus reconnaître qui l'a aimé, ne voyant que le papa ou ne voyant que la maman. Mais celui qui l'a aimé est toujours là. Et ce vide-là n'est pas bon. Alors il n'est pas bon du tout, du tout, du tout. Vous devez éviter cela en cultivant l'amour. Et c'est toujours possible. Vous devez aussi apprendre à parler de vos problèmes. Quand un homme est dans une phase, par exemple, parce qu'il a du stress, sa libido baisse, il en parle clairement, il doit en parler clairement à son épouse, qui va le soutenir dedans. Si l'épouse aussi a tel problème, il faut se parler. Parce que quand vous gérez quelque chose tout seul, l'autre ne sait pas ce que vous gérez. Il vous en veut, il a peur, il est inquiet, il imagine le pire. Alors qu'il suffit de dire, je me sens de telle manière, soutiens-moi. Pour que la personne le comprenne. Autre chose, je déteste les chambres à part. On ne peut pas être marié pour faire un, et l'homme va avoir sa chambre, et la femme va avoir sa chambre. Si c'est pour vous habiller, faites une chambre pour les habiller. Si c'est pour tout ce que vous voulez là. Un homme et une femme habitent dans une même chambre et dorment sur un même lit. Quand papa a sa chambre, et il faut qu'il veuille ouvrir la porte pour que maman arrive, que maman a sa chambre, qu'elle peut se fier dans sa chambre, à la moindre situation de routine, l'écart se cause rapidement. Parce que le fait de ne pas être dans la même chambre, quand vous êtes dans la même chambre, les circonstances même vous forcent à vous toucher. Donc, même si par exemple vous êtes en rancune, si par exemple vous avez décidé de ne pas vous parler, que chacun est dans sa chambre, ça peut durer un mois. Mais si vous dormez dans le même lit, dans la même chambre, c'est très difficile de ne pas se parler pendant un mois. Donc, je trouve qu'il n'y a rien de moins sage pour un couple que de commettre l'erreur d'avoir la chambre de papa à part, la chambre de maman à part. On dit oui, maman peut venir, je dis non. Un couple a une chambre. Parce que s'ils sont un couple, ils ont une vie. On n'a pas besoin d'avoir de chambre, on peut cacher des choses, on peut cacher son portable, on peut... Non. Si vous n'êtes pas prêt à vivre vraiment avec l'autre, en lui ouvrant toute votre vie, c'est que vous ne l'aimez pas. Tu ne peux pas aimer quelqu'un en estimant que tu l'aimes, mais il y a des choses de ta vie, il ne doit jamais savoir, dont tu dois avoir ta chambre à part. Si quelqu'un estime qu'il veut vivre avec vous, mais il y a des choses de sa vie que vous ne devez jamais savoir, ne vivez pas avec lui. Parce que vous ne savez pas quelle ampleur et l'importance de ce que vous cache. Et c'est peut quand vous le découvrez, vous tombiez des nues. Je ne crois pas qu'il soit sage de se marier avec quelqu'un qui décide que jamais tu vas rentrer dans sa chambre. Ou bien tu dois le prévenir, prendre rendez-vous avec lui avant de rentrer dans sa chambre à coucher. Il y a des gens qui ne font pas de mauvais choix, ils ont vécu dans une famille, ça se fait comme ça, ils le reproduisent. Mais c'est un très mauvais choix pour le couple. Et franchement, méfiez-vous, ne permettez jamais, c'est aussi la faute des femmes. Trop de femmes jettent ou mettent leur copine dans leur couple. À force d'avoir une copine avec qui vous êtes parti midi soir, vous envoyez votre copine chez votre mari, vous chargez des commissions à votre copine, votre mari, vous invitez votre copine dans votre maison. N'ayez pas de copine. Et les hommes, c'est pareil. De copains que vous mettez trop à l'intérieur de votre couple. Parce que la proximité, surtout pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, crée la tentation. Il y a des amis, bon, un couple ami peut venir, ou bien une femme, une copine, elle vient, rentre dans la chambre du couple, elle dort sur le lit avec sa copine, ils sont là. Pourquoi ma copine va venir dans la chambre de mon mari? Qu'est-ce que ma copine vient chercher sur notre lit à coucher? Si tu as habité ta copine à venir dans ta chambre à coucher, tu lui racontes tout ce que tu fais avec ton mari, elle voit la disposition de tout, elle voit la photo de ton mari, tu lui parles même de comment ton mari se comporte au lit, ainsi de suite. À la première épreuve, quand vous êtes en foi, elle va te dire, bon, je vais aller voir ton mari pour toi. Donc elle va voir ton mari. Quand ton mari va commencer à pleurer, elle va le réconforter. Voilà que toi, tu lui as déjà dit tout de ton mari. Elle sait comment il réagit. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Elle a toutes les armes pour te prendre ton mari. Elle sait, puisque tu lui dis, qu'est-ce que ton mari déteste en toi. Donc, elle a tout ce qu'il faut pour te mettre dehors. Et comme tu l'as envoyé, elle peut aller dire de toi ce qu'elle veut à ton mari. Beaucoup de femmes ont été chassées de chez elles par leur meilleur ami qui a pris le mari. Parce qu'elles-mêmes, elles ont créé ça. Comment maîtriser sa jalousie? Ça mérite tout un séminaire. Mais retenez que la jalousie dont on parle ici, il est normal que toute personne, nous sommes des humains, éprouve un minimum de jalousie, c'est-à-dire un désir de ne pas perdre la chose aimée. Mais la jalousie qui est mauvaise, on parle ici, c'est le désir de posséder pour soi seul ce qu'on aime. C'est vrai que si on est marié avec quelqu'un, il est normal de le vouloir, de vouloir être marié qu'avec lui, ça va de soi. Dieu lui-même dit qu'il est jaloux. Dieu est avec nous, il ne veut pas qu'on soit avec Satan. Dieu est jaloux. Donc ce n'est pas dans ce sens qu'on dit que l'amour n'est pas jaloux. Sinon, Dieu ne devrait pas être jaloux. Or, Dieu dit clairement dans sa parole qu'il est jaloux, qu'il est un Dieu jaloux. La jalousie dont on parle, c'est le fait quand on aime quelqu'un, de vouloir l'ôter à la vie. C'est-à-dire de vouloir qu'il ne soit là que pour nous comme un bijou. Il y a des gens, quand ils aiment par exemple une femme, elle ne doit plus voir ses parents, elle ne doit plus voir ses amis, elle ne doit plus aller au travail. Même n'importe qui a juste une relation agapao avec la personne, ça les indispose. Comme si elle l'aime, elle doit être accrochée à son pantalon, elle doit sortir de sa poche quand elle le veut. Et vice-versa. À un moment, notre amour est possessif. Pas dans le sens que nous avons peur que la personne aille aimer quelqu'un d'autre, d'Eros, mais parfois simplement que nous n'aimons pas suffisamment la personne pour être heureux de la voir heureuse. Ou pour être heureux de le voir heureux. Dès qu'on le voit heureux avec les autres, donc on le voit agapao quelqu'un d'autre, alors que tout le monde doit être agapao, nous sommes indisposés. Comme si parce que nous aimons la personne devrait nous appartenir. Oh, la personne ne nous appartient pas. Elle est elle-même. Elle a droit à une vie. Elle a droit à s'épanouir, comme nous avons droit à nous épanouir. Nous devons pouvoir fonder un amour bâti sur agapao avec Eros comme cerise, mais tout en respectant le droit pour chacun d'être agapao par d'autres personnes, sans s'inquiéter parce qu'on lui fait confiance. Et c'est là où le vrai amour bannit la crainte. Peut-on vivre une relation sans relation sexuelle de toute évidence? C'est ça l'idéal. On doit vivre une relation, se concentrer sur qui la personne est, se contenter pour l'agapao, se concentrer pour être agapao par lui. Quand vous n'avez pas de relation sexuelle, vous prenez le temps de découvrir qui il est. Quelqu'un ne peut pas vous mentir sur qui il est pendant 7 ans si vous n'avez pas couché ensemble. Ce n'est pas possible. Parce que si quelqu'un est avec toi 7 ans, ou c'est qu'il était en train de faire l'amour avec toi, c'est le sexe qui le bloquait, ou c'est qu'il était sincère. Mais dans Agapao, personne ne peut jouer ton fiancé pendant 7 ans sans le sexe. Quand il y a le sexe, il y a des gens qui restent pour le sexe, pas parce qu'ils aiment. Et le temps passe, on croit que leur durée est la preuve qu'ils aimaient. Mais quand tu prives quelqu'un de sexe parce que tu n'es pas marié, tu es sûr que si un gars reste avec toi 7 ans, c'est pas il va, il disparaît 1 an, il revient, il disparaît 6 mois, il revient te baratiner. Mais si tu vis assidûment, ou bien tu fréquentes assidûment quelqu'un, tu vois, il ne te trompe pas avec quelqu'un, tu es assidu avec quelqu'un pendant 7 ans, sans le sexe, il y a de grandes chances que ce type la t'aime vraiment, ou que cette fille la t'aime vraiment. Sinon, sans le sexe, elle n'attendrait pas 7 ans. Donc, hors du mariage, l'absence du sexe est plutôt un gage qu'on est lucide et qu'on va faire le bon choix. Il doit bel et bien avoir, avant le mariage, idéalement, aucune relation sexuelle. Comment éviter le divorce au niveau des chrétiens? Ça, là, ça mérite tout un séminaire. Il y a tellement de choses à dire. Je vais revenir là-dessus. J'en ai déjà parlé. On a des enseignements là-dessus. Beaucoup de chrétiens divorcent parce que l'homme doit être chef de la famille. On ne l'apprend pas suffisamment aux chrétiens. Deux, Dieu n'a jamais demandé à une femme de le suivre en se rebellant contre son mari. Beaucoup de femmes chrétiennes se rebellent contre leur mari sous prétexte qu'ils ne sont pas chrétiens. Or, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que la femme chrétienne doit manifester plus d'amour, doit être plus vertueuse, doit être plus patiente, doit obéir à son mari, même s'il est païen. De telle sorte que le mari soit tellement impressionné qu'il dit, mais c'est ma femme ça? La dame agitée, la dame qui crie, la dame qui me menace tout le temps. Cette Dieu ne va pas sortir. Et puis elle dit que, bon, comme Dieu a dit de m'obéir, elle ne sort pas. Quel est ce Dieu-là qui a changé ma femme? Elle n'est plus femme karatéka. Je veux aller voir ce Dieu. Comme ça, un mari païen peut être gagné pour le Seigneur. Mais si dès qu'une femme reconnaît le Seigneur, moi je vais à l'église, mon pasteur a dit qu'il y avait de prière, c'est 22h du matin, tu veux pas, c'est Dieu, moi je m'en vais. Elle rebelle plutôt le gars contre l'église et contre Dieu. Le gars ne va jamais donner sa vie à Jésus. Et tôt ou tard, le gars va la laisser. Le pasteur ne va pas les épouser tous. Comment gérer une relation où le conjoint a déjà un enfant? Ça aussi, c'est une question très complexe. Si vous vous aimez vraiment et que vous choisissez de vivre vraiment, ou d'un côté ou de l'autre, avec déjà des enfants, et que vous aimez l'autre, ces enfants ne doivent pas vous poser des problèmes. Si vous aimez quelqu'un, vous lui voulez du bien. Donc, si vous vous entendez là-dessus, ça ne devrait poser aucun problème. Mais il faut vraiment que votre conjoint soit mature et fasse le choix d'accepter cela. S'il ne fait pas le choix d'accepter ça, s'il ne vous aime pas vraiment, s'il n'est là que pour Eros, à un moment, il va être fatigué de votre enfant. Parce qu'il n'aimera pas tout ce qui vient de vous. Mais s'il n'est pas là que pour Eros et il vous agapao, il est censé vous aimer avec vos enfants et aimer vos propres enfants. Et pour vous, à leurs besoins, s'en occuper. Les enfants peuvent-ils justifier la distance de la femme vis-à-vis de son mari? Non! Non, 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 non. Parfois, c'est la routine. Ce n'est pas ignorance que les femmes, à force de gérer les enfants, sont fatiguées, se laissent aller, ça crée la distance. Parfois, je ne sais pas pourquoi, les femmes, les enfants leur servent de prétexte.
Il y a par exemple des femmes, quelqu'un ne veut pas coucher avec son mari, elle demande au bébé de venir se coucher au milieu. On utilise les enfants pour des prétextes. Ou bien dire, je suis en train d'allaiter le bébé qu'on sort. À un moment, il doit avoir une limite dans toute chose. Donc, c'est vrai qu'après avoir porté 9 mois de grossesse, après l'accouchement, les tracasseries, gérer le bébé, les femmes se sentent parfois tellement fatiguées que l'homme ne s'en rend pas compte, même si elle est là, elle rit. Elle est fatiguée, peut-être que mentalement, elle n'est pas encore prête à un certain niveau d'intimité. Que ça dure quelques semaines, quelques mois, même quand je dis quelques mois, ça devient beaucoup. Je dirais quelques semaines après l'accouchement, c'est normal. Mais si ça dure trop, beaucoup de couples vieillissent par là. Et je crois que l'homme qui se retrouve dans ce cas doit dire clairement à sa femme qu'il a bien l'intention d'avoir une femme et pas seulement une mère. Donc si par hasard elle veut être une mère, de l'autoriser à avoir une autre femme ailleurs. En général, les femmes comprennent très vite ce langage. Aucune femme ne fait le malin en matière de relations sexuelles quand elle sait que son mari lui a posé clairement le problème. Donc ne faites pas de ça un sujet tabou. Posez clairement le... C'est-à-dire quoi, quel que soit le problème du couple, parlez-en. Chérie, je remarque tel... Ça ne me plaît pas. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? À quoi c'est dû? Il faut... Donc, posez les problèmes et parlez-en. Comme je dis, en n'attaquant pas l'autre. Ce n'est pas, j'ai remarqué que non. Tu sais, je t'aime bien, après tu es ma femme, mais je me rends compte qu'on n'a plus d'intimité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous posez les problèmes sans attaquer l'autre, tous les problèmes ont une solution. Vous allez en discuter avec l'autre et vous allez trouver la solution. Mais parlez des problèmes. En ne posant pas que l'autre sait ce qu'il fait, il fait exprès, il veut me faire du mal. Bon, je vais aussi réagir. Parfois, il ne sait pas. Parfois, il a peur. Parfois, par exemple, après avoir subi certaines choses. Vous savez, parce qu'on appelle comme les épisiotomies ou des choses comme ça. Les femmes, ce qu'elles souffrent à l'accouchement, ce n'est pas la blague. Hein. Donc, quelque part, elles sont traumatisées. Et psychologiquement, elles ont peut-être un peu peur de retourner au sexe. Vous avez fait ça, vous avez oublié, vous êtes amusé. Mais elle a porté ça pendant 9 mois. Elle est allée sur la table d'accouchement, ce qu'elle a subi là, vous n'avez pas subi. Donc, il est un peu normal que, bon, chair est chaude, crée l'eau froide, que peut-être quelque chose au fond d'elle lui dit cette affaire-là, est-ce que tu vois encore jouer avec ça maintenant? Bon, vous devez l'aimer, la rassurer suffisamment, la détendre. Et en parler pour trouver une solution. Comment avoir des relations à distance? Franchement, si les deux sont déjà mariés, ils n'ont pas le choix, il faut gérer. Mais si les deux ne sont pas mariés, évitez les relations à distance. Le pire, c'est les relations sur Internet, la relation Facebook, quand on tombe amoureux de quelqu'un qu'on n'a jamais vu, par ce qu'il a écrit. Ça, c'est le summum de la bêtise. Il faut qu'on se dise la vérité. Si quelqu'un est fait pour vous, Dieu l'amènera proche de vous. Si vous n'êtes pas encore marié avec quelqu'un, ne vous mariez jamais avec quelqu'un sans savoir comment vous allez habiter ensemble. C'est impossible un vrai mariage où l'autre habite au Canada, vous habitez au Bénin et vous savez que c'est comme ça en permanence. Une fois par année, il viendra en vacances. Si vous voulez vous mentir, c'est autre chose. Si vous l'envoyez là-bas, comme je connais certaines femmes, dites c'est pas grave, il va avoir les papiers, même s'il épouse une blanche là-bas, il va avoir l'argent pour m'envoyer. Là, c'est juste filéo que vous avez, vous le donnez à quelqu'un d'autre là-bas, c'est autre chose. Et si vous voulez vraiment avoir un vrai mariage avec quelqu'un, ce n'est pas possible à distance. Ou vous trouvez le moyen de le rejoindre, ou vous trouvez le moyen de le faire venir. Que votre mari aille ponctuellement en mission 3 mois ou 6 mois, même 1 an, ponctuellement, ce n'est pas grave. Mais un mariage où il y a des chances que par nature, vous viviez des années loin l'un de l'autre, il faut bien demander à Dieu si c'est vraiment lui qui vous marie. L'absence fréquente d'un partenaire est-il bien pour le couple? Non, parce que le couple est fait pour être ensemble. Donc plus souvent vous pouvez être ensemble, mieux c'est. Évitez vraiment au maximum les absences fréquentes. C'est très, très mauvais pour le couple. Ça ne veut pas forcément dire que votre femme va vous laisser, votre mari va vous laisser. Mais c'est un fardeau lourd à porter. Si on peut l'éviter, c'est toujours mieux. Est-ce que la faiblesse sexuelle peut être un facteur de rupture? Ça dépend de ce que vous appelez faiblesse sexuelle. Si vous êtes marié, que tout allait bien, et que quelqu'un a un problème, qui peut être médical ou psychologique, qui a une faiblesse sexuelle, ça ne peut pas être un facteur de rupture. Vous n'êtes pas marié pour le sexe. Maintenant, si vous n'êtes pas marié, je ne vois même pas pourquoi on va parler de faiblesse sexuelle. Donc, vous voyez, quand je suis dans le domaine de définition de l'amour vrai, il y a des questions qui en elles-mêmes n'ont pas de sens. Écoutez, si vous épousez quelqu'un, c'est votre mari, Dieu permet qu'il ait un accident, et pendant même 10 ans, il est malade, il faut le soigner, il ne peut pas faire l'amour, vous allez divorcer? C'est la vraie question. Est-ce que vous allez divorcer? Alors qu'il vous a donné sa vie, quand elle était belle, ou quand il était beau, quand il était fort, vous le vouliez. Quand maintenant il a besoin de quelqu'un qui peut s'occuper de lui, vous allez partir. C'est la vraie question de l'amour. C'est pas ce que les gens font, on s'embrasse, on s'aime, mon copain, mon chéri. Ça, c'est pas l'amour. Comment un homme riche peut-il choisir sa conjointe? En demandant à Dieu. Et de temps en temps, en ne montrant pas qu'il est riche. Quand un homme riche a des problèmes d'argent, c'est le meilleur moment pour savoir que vaut sa femme. Et je conseille même à ceux qui ont de l'argent, de temps en temps, de faire le pauvre. C'est la meilleure manière de savoir si ta femme t'aime. Tu connais le vrai visage de ta femme les jours où tu n'as pas d'argent. Quand tu n'as pas d'argent, la femme qui t'aime n'est pas censée te bouder. Elle n'est pas censée te rappeler tout le temps que tu es en difficulté. Elle n'est pas censée te rappeler tout le temps que tu es incapable. Elle n'est pas censée dire, débrouille-toi, prends tes responsabilités. Jamais. Elle doit te soutenir, elle doit prier pour toi. Tu ne dois même pas devoir lui demander pour qu'elle se révise. Une femme qui vit de la même manière, quel que soit ce que tu as, une femme dangereuse. Quand tu as beaucoup d'argent, ta femme peut te dépenser. Quand elle sent que tu as des problèmes, tu ne dois pas devoir lui dire avant qu'elle n'ajuste son train de vie. Des fois, tu vas vouloir dépenser, elle va te dire non, je ne suis pas d'accord. Ça, là, ce n'est pas important. Par les temps où on fait des économies. Une femme qui t'aime va gérer ton argent pour toi, va te faire des économies et va t'apprendre qu'elle t'aime avec ou sans ton argent. Mais si dès que tu n'as pas d'argent, ta femme enfonce la mine, il faut te demander si c'est ta femme. Comment gérer une grossesse alors que seule la petite dot est donnée? Ça dépend de ce qu'on appelle la petite dot. D'un point de vue biblique, la dot est le mariage. D'un point de vue biblique. Le reste, à la mairie, on dit quoi? C'est la formalisation administrative du mariage. Et à l'église, c'est la bénédiction du mariage. Donc, d'un point de vue biblique, c'est la dot qui est le mariage. Qu'est-ce qu'on appelle petite dot? Qu'est-ce qu'on appelle grande dot? La Bible n'en fait pas cas. La dot, c'est la dot. C'est chez nous que pour des raisons culturelles, on a dit la petite d'abord, la grande après. Donc, j'avoue que je ne sais pas comment répondre à cette question parce que je ne sais pas, selon les familles, quel est le sens qu'il donne à la petite dot. Si la petite dot est juste dans le genre, bon, je te dis que je suis fiancé avec ton enfant. Ce n'est pas encore qu'on veut se marier, je suis en train de la fréquenter. Dans ce cas, on ne devrait pas avoir de relation avant puisqu'on ne s'est pas encore engagé. Mais si comme la dot, c'est de dire, je m'engage, je prends cette femme-là comme épouse. Il reste mariage organisé, mais je la prends comme épouse, ce qui est le sens de la dot. Oui, on devrait pouvoir aller. Bien entendu, quand c'est possible, c'est pour ça que beaucoup de gens font la dot le même jour et puis quasiment ou deux jours après on se marie. Quand c'est possible, faites le tout ensemble. Mais si pour une raison ou une autre, comme beaucoup de gens, quelque chose vous empêche de faire le mariage, d'un point de vue symbolique et d'un point de vue moral, la dot est le mariage. C'est elle qui lie deux familles. Pour les familles, quand tu as fait la dot là, ils t'ont donné leur enfant. Hein? Tu n'as pas le dit que tu n'as pas encore fait le mariage, que tu devais prendre leur enfant. Bien. Quand on dit que Yahweh qu'on sort, tu mets Yahweh dans ta chambre. On lui demande le lendemain comment ça s'est passé. On s'en fout que tu sois parti à mairie ou bien. C'est ça, non? Voilà. Donc une dot, c'est un mariage. Petite ou grande, maintenant, c'est à vous de voir dans vos familles que représente la petite dot. Pour voir si le sens que les familles donnent à la petite dot considère qu'on est déjà dans le cas du mariage. Que faire quand après 6 ans, la femme dit qu'elle ne veut plus sans aucune raison? Il faut la laisser partir. D'abord, je suis sûr que ce n'est pas 6 ans d'amour. C'est 6 ans de sexe et de plein de choses. Peut-être que c'est pas, elle ne s'est pas levée du jour au lendemain pour partir. Il y a certainement une dégradation. Et l'autre voulait peut-être forcer. Et elle est fatiguée de forcer. Peut-être qu'elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Dans tous les cas, deux personnes pour vivre ensemble doivent choisir. Si une personne à laquelle tu n'es pas mariée te dit clairement qu'elle ne veut pas, et tu te rends compte qu'elle ne blague pas, qu'elle ne veut vraiment pas, il n'y a rien à faire d'autre que de la laisser partir. Et d'ailleurs, nous-mêmes en tant que chrétiens, écoute, tu peux aimer quelqu'un et tu pries, tu dis, Seigneur, est-ce que c'est ma femme? Et Dieu te dit clairement non. Tu demandes tout le signe, Dieu te dit non. Tu dois pouvoir dire, ma soeur, je t'aime. En tous les cas, je n'ai pas péché contre toi parce que je n'ai pas couché avec toi. Je veux t'épouser, moi je t'aime bien. Mais Dieu me dit que tu n'es pas ma femme. Ça veut certainement dire que je ne suis pas ton mari. Restons de bons amis, mais Dieu n'a pas de plan pour nous ensemble. Si nous voulons être heureux comme un couple, chacun doit trouver qui Dieu a pour lui. C'est une raison suffisante pour rompre des fiançailles. Dans la Bible, il y a des ruptures de fiançailles. Joseph, par exemple, a failli rompre les fiançailles avec Marie. Si le Saint-Esprit n'était pas intervenu pour lui refuser ça, il voulait rompre ses fiançailles avec Marie. Donc, la rupture de fiançailles est possible. Donc, il n'y a aucun mal quand on sort avec quelqu'un. Si on a respecté une fois encore le domaine de définition dans lequel nous sommes, qui est de ne pas avoir couché avec la personne n'importe comment, de dire, je n'ai pas la conviction du Seigneur que nous sommes pour être ensemble. Tu ne dois pas en vouloir à quelqu'un qui dit, bon, tout compte fait, apparemment notre vie n'est pas faite pour être à deux. Que faire pour la femme qui ne s'est pas préparée? Si c'est ta copine, tu joues avec elle simplement et ce n'est pas le plan de Dieu, il faut la laisser partir chez elle, qu'elle apprenne à préparer avant de découvrir son mari. Si c'est déjà ta femme, il faut lui prendre des cours de cuisine, lui demander d'avoir l'intelligence de fréquenter souvent sa maman pour apprendre à faire la cuisine. Si elle est sage, être amie avec ta maman pour apprendre à faire la cuisine. Il n'y a rien d'autre. C'est vrai qu'avec la société moderne, une femme peut avoir un cuisinier pour avoir des domestiques. Mais si tu ne sais pas faire toi-même la cuisine, même ton personnel de maison va se moquer de toi. Il ne va pas te respecter. Si ta domestique se fâche et s'en va, tu ne vas pas pouvoir faire manger à ton mari ce soir-là. Et puis il y a des fois où ton épouse doit pouvoir vouloir te faire plaisir en disant ce soir, je vais à la cuisine moi-même pour te faire plaisir, même si elle a du personnel. Donc, il n'est pas bon qu'une femme ne sache pas du tout faire à manger. Et quand il va avoir une réception, les familles sont terribles, elles vont venir, vont dire, bonjour, nous voulons venir manger, il y a un pilé chez toi. C'est notre femme qui va faire manger. Hein? Une tante dit, viens, je vais à la cuisine avec toi.
Elle dit, non, bon, j'ai mes ongles, il ne faut pas que ça fonde. Attendez, je vais appeler mon cuisinier. Elle dit, yeah. Moi, je dis, ouais, faut t'envoyer. Il m'a t'aidé, mais tu es foutu. Donc, quand même, il faut faire au moins un peu. Ça ne veut pas dire qu'il faut répudier vos femmes si elles ne savent pas faire à manger. Mais ce n'est pas bon qu'une femme ne sache pas faire à manger. Comment s'adapter à l'abstinence hors du mariage et avant le mariage? Comme je dis, si vous comprenez pourquoi Dieu ne veut pas que vous alliez aux relations sexuelles avant le mariage, vous comprendrez que c'est dans votre intérêt. Ça complique tout. Ça vous coûte tout que de le faire. Ça fait que des gens qui ne vous aiment pas, mais qui voulaient juste coucher avec vous, restent. Alors que sans ça, ce ne serait pas le cas. La question c'est, si en s'abstinant, tu es sûr d'avoir un grand, beau et durable mariage en paix, est-ce que ça ne vaut pas le coup de se tenir tranquille pendant quelques mois, quelques années? C'est pour ça que je dis, il faut choisir. Regardez bien. Plus les filles ont des copains, moins elles ont des maris. Moins elles ont de copains, plus elles ont de maris. C'est un choix. Tu peux choisir de ne pas pouvoir te tenir, donc tu joues avec les copains. Tu vas avoir les copains tant que tu as l'âge d'avoir des copains. Quand tu vas avoir 45 ans, 50 ans, et qu'il n'y aura plus beaucoup de gens qui veulent des copines de 50 ans, bon, tu vas vieillir tout seul comme beaucoup de gens. Mais si tu veux rentrer un jour rapidement dans un mariage, tu dois te sanctifier, te mettre à part. L'autre chose est la suivante. Quand vous priez pour demander à Dieu l'homme de votre vie, sachez que Dieu aime votre mari comme vous m'aimez. Moi, je ne vais pas prier Dieu de m'envoyer une femme. Et une femme qui est en train de coucher de personne en personne, Dieu va me l'envoyer. Et que Dieu est méchant. Les femmes disent, bon, je suis en train de sortir avec telle personne, bon, il n'est pas bon, mais Dieu ne m'a pas encore envoyé le bon mari. Dieu ne peut pas t'envoyer le bon mari pendant que tu es en train de coucher avec le mauvais. Il faut un moment de sa vie dire stop. Nettoyer sa vie, la rendre propre, la nettoyer, en attendant que Dieu envoie quelqu'un. Tu ne peux pas baigner dans le péché avec n'importe qui et souhaiter que Dieu t'envoie dans ce péché-là quelqu'un. Tu ne peux pas attendre que Dieu t'envoie ton mari pour te déconnecter de tes copains de fornication. Parce que le risque, c'est que si ton mari vient te rencontrer, pendant que tu as une relation avec les autres, quand on est petit, on le saura. Il peut même se fâcher rien qu'à cause de faire partie définitivement. Donc si Dieu t'aime, il va attendre d'abord que tu sois propre et déconnecté de tout le monde avant d'amener ton mari. Quand tu es une femme célibataire, il ne faut pas que n'importe qui vienne, on va prendre un pot, on te voit aujourd'hui, on fait cela avec quelqu'un, demain te voir au bigard avec quelqu'un, c'est toujours toi qui es en train de prendre des verres avec n'importe qui. Mais quand les gens te voient avec des gens, on ne dit pas que tu es parti prendre un verre, on dit la fille, là, je l'ai vu avec Paul, non? Avant hier, je l'ai vu avec Pierre, je l'ai vu avec Jacques, cette fille, elle avec tout le monde. Hein? Alors que peut-être tu n'as couché avec personne, tu es parti prendre des verres avec tout le monde. Une femme qui atteint un mari doit apprendre à se mettre à part et ne pas avoir un comportement qui peut être interprété comme un comportement de frivolité. Parce que beaucoup de gens qui auraient pu avoir de bons maris n'en ont pas parce qu'ils ont une réputation de frivolité qui n'est même pas toujours méritée. Faites attention aux apparences quand vous attendez votre mari. Est-il bon de renoncer au divorce à cause des enfants? Non. Il faut renoncer au divorce autant que faire se peut. Personne ne veut que ses enfants vivent dans un ménage divorcé. Mais des enfants dans un ménage divorcé où les deux sont en paix sont plus heureux que des enfants dans un ménage où les parents se battent tous les jours, où la maison devient un enfer. Ce n'est pas vrai que les enfants des parents divorcés sont toujours plus malheureux que les enfants des parents dont le couple est foutu mais qui vivent ensemble. Si le couple est heureux, c'est sûr que c'est toujours mieux que des enfants de parents divorcés. Mais souvent, c'est que le couple n'est pas heureux, mais ils ne sont pas divorcés. Ils se battent tous les jours, ils ne se parlent jamais, ils sont là à se maudire, ils sont là à se battre. Il n'y a aucun amour dans la maison. Mais ils vivent dans la maison comme ça, on dit que papa et maman sont toujours ensemble. Et on dit oui, on est là à cause des enfants. Ça là, si c'est comme ça pour les enfants, ce n'est pas la peine. Parce que les enfants souffrent. Mais, je le répète, si nous suivons tout ce que nous avons dit, et que quelqu'un se marie bien, il n'a pas à venir de l'autre. Et je dis aux femmes, quand tu veux divorcer, même quand Dieu te dit de divorcer, demande à Dieu de faire partir ton mari. Ce que je dis là est très important. Quand Dieu veut aider un de ses enfants à sortir d'un mariage, il gère jusqu'à la manière dont il va sortir. Pour que demain, il ait raison. Je connais des cas où la femme avait toute raison de partir. Mais elle ne s'est jamais levée pour partir. Quand l'heure a sonné, Dieu a fait en sorte que son mari même se lève un jour, il vient ramasser toutes les affaires et dit « Je pars, je ne suis plus ton mari. » Et tout le monde a vu. Dès qu'elle part, elle dit « Non, non, je m'étais trompé, je vais revenir. » Mais là, la femme est déjà libérée. On ne va pas dire que c'est une prostituée qui s'est levée qui est partie. Tout le monde a vu que le mari est parti. C'est quand il est parti, il n'a pas payé le loyer pendant des mois, il dit que ce n'est plus ma femme, qu'elle est partie. L'histoire retient qu'elle n'est pas une prostituée. C'est son mari qui est parti. Mais si un jour avant, c'est elle qui s'était levée pour partir, l'histoire dira autre chose. Si vous êtes une chrétienne, même le jour où vous êtes amené à divorcer, demandez à Dieu de gérer votre divorce. Il va vous faire sortir de ça dedans, tchéqué. Vous sortez la tête haute.
Parce que si Dieu n'est pas avec vous, vous ne pouvez pas sortir la tête de mariage. Parce qu'il faut pouvoir sortir, si ça doit arriver absolument du mariage, pendant que Dieu crée les conditions pour que vous puissiez être restauré. Cela veut dire que si, je continue de le dire, cela ne devait jamais arriver, même la décision de partir, la laisser là à Dieu. Est-ce que génétiquement l'homme est censé être infidèle? Non. C'est Satan qui est le père de l'infidélité. L'homme qui s'abandonne à Satan est infidèle par nature. Mais l'homme qui s'abandonne à Dieu aura la nature de Dieu qui est la fidélité. Rien ne prédispose les hommes à être infidèles. C'est vrai qu'ils sont l'autorité et qu'en tant qu'autorité, ils abusent de leur autorité. Mais en réalité, je ne pense pas que quelque chose rende un homme génétiquement obligé d'être infidèle. Ça veut dire que quand vous êtes dans le plan de Dieu, tout ça disparaît. C'est quand vous n'êtes pas à la bonne place, que vous êtes tout le temps en train d'avoir envie d'aller regarder dehors. Quand vous êtes avec le plan de Dieu, ça ne vous traverse même pas l'esprit. Et quand vous êtes dans le plan de Dieu, c'est non seulement d'être avec la bonne personne, mais c'est de cultiver votre relation pour atteindre son épanouissement. Une relation est comme un jardin, c'est comme une fleur. Si vous l'entretenez bien, elle grandit, elle éclot, elle montre toute sa beauté. Donc une relation est comme une graine. Une relation peut commencer à un niveau X, mais si vous la cultivez bien, elle va devenir belle. On se connaît, on se fréquente, on se découvre, on arrondit les angles, on apprend à faire des choses ensemble. Et c'est tout ça qui peut en vous donner de dire, ah, regardez, c'est un beau couple. Ça ne vient pas forcément le premier jour. Mais si Dieu est avec vous, il saura faire en sorte que votre couple le glorifie tous les jours, envers et contre tout. Donc, je vais programmer d'autres séminaires sur l'amour dans les prochaines semaines, parce que j'ai vu que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de personnes et qui crée beaucoup de dégâts dans les vies. Je prie pour que le Saint-Esprit vous donne non seulement de comprendre tout ce que nous avons dit, mais de comprendre encore au-delà de cela, qui donne à ceux qui sont dans des relations qui sont le plan de Dieu d'arriver à maturité selon son plan, à ceux qui cherchent l'âme sœur, que le Saint-Esprit vous envoie la bonne personne après vous y avoir préparé, à ceux qui sont déjà mariés et que le Seigneur restaure leur mariage et leur donne de découvrir à quel point le mariage est vraiment l'une des plus belles choses, sinon la plus belle chose qui puisse arriver à un homme et à une femme. Quoi qu'il en soit, que l'amour soit votre partage au quotidien. Vivez, y compris avec votre femme, par l'amour de Dieu. Si Dieu est le conducteur de votre relation, rien ne pourra vous ébranler. Quoi qu'il advienne, vous en sortirez toujours vainqueur. Prenez tout avec amour. Présumez toujours que l'autre ne vous veut pas du mal. Et ne lui voulez jamais du mal. Quel que soit le problème, parlez-en. Et quel que soit le problème, priez. Dieu aime les gens qui prient pour leur couple. Beaucoup de gens ont vu leur couple voler en éclats parce qu'ils ne prient pas pour leur couple. Priez pour votre conjoint. Priez pour votre conjointe. Même pour la tentation, si vous estimez que votre conjoint est tenté, priez pour que le Seigneur le fortifie dans la tentation. Priez pour que le Seigneur éloigne de lui des personnes qui vont être une pierre d'achoppement. Priez pour votre conjoint. Si vous priez pour votre conjoint, si vous priez pour votre couple, Dieu se glorifiera dans votre couple et vous permettre d'être de plus en plus heureux dans un monde où on ne croit plus cela possible. Que Dieu vous bénisse.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huygon. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? disent que la solution existe.